Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. Première partie, vision du Fils de l'homme.
L'introduction, hein, et le titre que vous avez vu apparaître tout à l'heure, c'est tout simplement la venue du Fils de l'homme. Alors, quand je dis la venue du Fils de l'homme, le livre de l'Apocalypse nous livre en transparence toute la glorieuse majesté de Jésus, Fils de Dieu. Voilà, il faut le dire, hein, le livre de l'Apocalypse, c'est cela. Et puis, j'ajouterai à cela, c'est que le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et permettez-moi cette petite introduction comparative entre le premier livre de la Bible et donc le dernier, le livre de l'Apocalypse. Et je pense qu'il y a des mots qui le résument bien, qui résument bien cette petite considération comparative. Comme Jésus le dit, je suis le commencement et la fin, je suis l'alpha et l'oméga. Alpha, première lettre de l'alphabet grec, oméga, la dernière lettre. Alors, simplement pour vous livrer cela à votre connaissance. Le livre de la Genèse nous parle, en quelque sorte, de la graine qui est semée par Dieu. Création et tout le reste. Le livre de l'Apocalypse montre d'une manière évidente l'éclosion de cette graine, son aboutissement, la fleur et le fruit. Alors maintenant, on va voir comparativement. La Genèse nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Le livre de l'Apocalypse nous fait la description de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Ensuite, le livre de la Genèse, c'est tout simplement le livre de la création des luminaires naturels, le soleil, la lune, les étoiles. Le livre de l'Apocalypse nous parle de la nouvelle ville qui n'a plus besoin de lumière, puisque la gloire de Dieu l'éclaire. On revient à la Genèse. La Genèse est la description d'un paradis qui a été perdu. Le livre de l'Apocalypse nous parle de la description d'un paradis qui est retrouvé et restauré. Genèse nous fait part de la ruse et du pouvoir de Satan avec la chute de l'homme. Le livre de l'Apocalypse nous parle que le diable est lié et jeté éternellement dans les temps de feu. Le livre de la Genèse nous dit que l'homme s'enfuit de devant Dieu et se cache. Le livre de l'Apocalypse nous parle d'une nouvelle communion, d'une nouvelle relation entre Dieu et l'homme racheté. Les choses sont nouvelles. Et enfin, le livre de la Genèse, il est question de l'arbre de la vie interdit à l'humanité pécheresse. Le livre de l'Apocalypse nous parle de l'homme qui retrouve l'accès, tout simplement, à l'arbre de vie. Voilà, c'était une petite introduction. Livre de l'Apocalypse, grec en grec, ça veut dire livre de la révélation. Les Anglais et les Allemands ont un mot beaucoup plus juste que nous. On pourrait parler du livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation, comme le lieu très saint de la Bible. Pour en pénétrer le sens, il faut avoir auparavant traversé les autres parties du sanctuaire dans lesquelles Dieu s'est dévoilé et a parlé aux hommes. Alors il y a naturellement 66 livres. Ce sont des parties. L'Ancien Testament pourrait représenter le parvis. Le Nouveau Testament, le lieu saint. Et nous l'avons dit pour le livre de l'Apocalypse, eh bien, c'est vraiment le livre de la pleine révélation. En grec, apokalypsis. Apokalypsis, c'est un regard vers l'avenir, donc le livre de l'espérance. Beaucoup de gens ont imaginé que l'Apocalypse était le livre de la terreur. C'est le livre de l'espérance, pour tout homme. Autant la Genèse décrit les origines du monde, l'Apocalypse illumine eh bien, illumine au cœur de la nuit. Là où il fait le plus sombre, mais la lumière de Dieu apparaît. Et il nous est rapporté, précisément dans les dernières lignes du livre, il nous est parlé de l'étoile brillante du matin, que nous comprenons naturellement dans la venue de Jésus. Il s'agit d'un monde nouveau qui se lève, et c'est bientôt le triomphe définitif de Christ en faisant des croyants des vainqueurs. C'est un livre d'espérance. Malgré le contexte dans lequel, eh bien, le monde sans Dieu, le monde révolté, le monde apostat, eh bien, évoluera. Donc, faire des croyants des vainqueurs. Une image de l'Évangile aide à comprendre. Je vous la livre telle quelle. Vous vous souvenez que le fils prodigue s'était enfui loin de la maison du Père. Ça nous ramène au chapitre 3 du livre de la Genèse, naturellement. Ce fils est égaré dans le mal le plus obscur et le plus dégradant. Mais un jour, il revient. Or, l'Apocalypse nous fait connaître que ce fils perdu retourne, qu'il est attendu et que c'est la fête. Et lorsque nous arriverons à ces chapitres, nous parlerons des noces de l'agneau. Le Père dit, faisons la fête parce que ce fils qui était perdu est retrouvé. Il était mort, mais maintenant il est vivant. Le but du livre est de préparer l'Église au retour glorieux de l'époux et de faire de cette Église même l'épouse préparée, c'est-à-dire une aide semblable à lui, selon les termes bibliques. L'Apocalypse, c'est l'annonce solennelle du roi qui vient, glorieux. Et rien à voir avec le roi qui a fait un jour son entrée à Jérusalem dans l'humiliation. Certes, les acclamations, mais dans l'humiliation. C'est l'entrée du sacrificateur parfait et total qui fait son entrée dans le sanctuaire divin. L'attente est sans cesse entretenue, puisque très souvent dans ce livre de l'Apocalypse, il nous est dit les choses qui vous doivent arriver bientôt. Donc, à travers tous les siècles, l'Église a connu, à travers le message de ce livre, qu'il s'agissait d'être persévérant, d'être vigilant et dans une attente permanente. Comme le jour où les Hébreux ont quitté l'Égypte et ce fameux soir de Pâques où Dieu leur a dit maintenant, tenez-vous prêts, que vos reins soient sains, que votre bâton soit à la main parce que les temps de la délivrance arrivent. C'est sous le même rapport que les choses peuvent être comprises. Le langage de l'Apocalypse est un langage symbolique, vous comprenez, avec beaucoup d'images. Et les chiffres y tiennent une place significative. Je cite, nous sommes toujours dans l'introduction, hein. Les chiffres 3 et 7, chiffres divins. 4, figurant le monde et l'homme, ainsi que le chiffre 6. 7 plus 3, c'est l'union entre Dieu et l'homme. Ainsi, l'Apocalypse se divise en 7 parties, et c'est ces 7 parties que nous allons voir tout au long de l'étude. Et ce chiffre présente le sceau royal sur une fresque royale, parce que c'est comme le livre de la création dans la Genèse. Tout ce qui nous est préparé, tout ce qui nous est dépeint, c'est comme si c'était des tableaux, c'est comme si vous étiez, par exemple, devant, dans un musée, et que vous voyez, vous passiez d'un tableau à un autre. Donc c'est éminemment symbolique. Et il faut le comprendre comme cela. L'apothéose finale de toutes les beautés de l'Écriture sainte sont consignées ou est consignée dans le livre de l'Apocalypse. Pour beaucoup qui l'ignorent, l'Apocalypse est un livre mystérieux et terrifiant. Ils se disent, mais il n'est mystérieux que pour celui qui garde son cœur fermé. L'accès à la révélation, puisque ça veut dire révélation, eh bien, cet accès est rendu possible dans la mesure où l'homme s'approche de Dieu dans la foi. Ce n'est pas donc un livre mystérieux et terrifiant, c'est le contraire. Il a été écrit non pour cacher, mais pour révéler les choses qui doivent arriver. En d'autres termes, les choses à venir. Et les choses à venir pour que l'Église, pour que les croyants, pour que les hommes et les femmes de foi s'y préparent. Livre de la conclusion, qui, selon l'expression que nous connaissons, livre, donc conclusion qui entrevoit des lendemains qui chantent, puisque vous connaissez toute cette citation finale, où il n'y aura plus ni pleurs, où la mort n'existera plus, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance, plus de peine et toutes sortes de choses semblables. Des lendemains qui chantent après les pleurs et les douleurs d'ici-bas. C'est l'espérance. C'est vraiment marqué par l'espérance. Alors maintenant, nous allons voir ceci dit, brièvement, nous allons voir ce que nous renseigne ou ce que nous enseignent les versets. Alors je vais lire de 1 à 3, « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Parole donnée à ses serviteurs, lesquels doivent savoir expressément que leur Sauveur et Seigneur vient bientôt, selon l'expression, et que sa royauté va triompher de tous les ennemis de la vérité et du bien. » Ça, c'est une chose sur laquelle nous n'avons absolument pas à douter. Après tous ces temps, ces siècles, ces mondes, ces civilisations et ces générations qui se sont succédées depuis la chute de l'homme, donc depuis la Genèse, à travers l'histoire d'Israël, à travers l'histoire de l'Église, une chose qui est certaine, c'est que Dieu est en train de marquer et de dire à tous et de proclamer à la face du monde, pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, qu'il revient bientôt et que finalement il est venu, il revient en roi triomphant et que tous ses ennemis seront, eh bien, défaits pour montrer, indiquant la façon, c'est-à-dire dans une suite de tableaux, je l'ai dit il y a un instant, qui se succèdent dans des visions, c'est-à-dire soit tout ce que l'apôtre Jean, puisqu'il est le visionnaire et il est l'écrivain, tout ce qu'il a vu, sans commentaire ni explication. C'est pour ça que l'Apocalypse, et nous allons le suivre pas à pas, et si nous avons des références à donner, nous irons les chercher dans la Bible, et pas à l'extérieur, afin qu'il n'y ait pas de spéculation, afin qu'il n'y ait pas d'extrapolation, comme certains l'ont fait, ont bâti des doctrines, et qui n'ont rien à voir. Ce sont des supputations que certains prophètes, ou voire même faux prophètes, eh bien, ont apportées, et souvent, ils ont souvent marqué plutôt le malheur que l'espérance et le bonheur qui attend ceux qui croient. Donc, sans commentaire ni explication précise, sinon selon l'analogie des Écritures. Nous sommes renvoyés à ce que l'Écriture nous dit. Et nous avons suffisamment de quoi pour expliquer l'Apocalypse à travers tous les textes de l'Écriture sainte. Et il nous faut aussi, tout simplement, pour la parole est là pour nous demander, d'exercer ou d'affiner ou de développer notre perspicacité des prophéties bibliques, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament. À remarquer également que Dieu ne révèle pas le quand il revient. Là, ça reste un mystère. Vous connaissez les paroles de Jésus. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Mais nous avons quand même des signaux qui clignotent un peu de tous les côtés pour nous montrer que, eh bien, nous avançons dans ce temps du retour. Et cela, ça ne nous est pas dit, afin tout simplement d'entretenir la vigilance et la persévérance de la foi. Parce que nous, si les hommes savaient que ce sera, par exemple, en 2050, le 3 février 2050, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas ça, hein? Pas du tout. C'est parce que finalement, eh bien, il faut rester et que le caractère de l'attente reste intact. Et il nous est dit qu'il a envoyé son ange à son serviteur Jean. Jean, c'est l'apôtre. C'est l'apôtre de l'amour. C'est le bien-aimé, celui qui un jour, eh bien, eh bien là, pose sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est une attestation, ce qui nous est dit. Une certification, pourrions dire, de la parole de Dieu. Et nous voyons que ce sont des choses qui sont révélées à l'apôtre Jean, qui lui est témoin et qui rend témoignage de Jésus-Christ. Parce que Jean a été le témoin oculaire de Jésus, il l'a suivi, il a été appelé, il l'a suivi. Il l'a suivi jusqu'à la croix. Il l'a vu ressusciter son sauveur. Et maintenant, alors que Jean est probablement un très vieil homme, plus de 80 ans, il est en exil dans l'île de Patmos, Dieu se sert encore de ce vieil homme pour lui donner finalement la dernière révélation de ce livre de Dieu, qui est la Bible. Donc témoin et témoignage rendu à Jésus-Christ. Un témoin est fait pour voir, enfin, ou entendre naturellement, mais voir. Il devient un témoin oculaire et rapporte tout ce qu'il a vu fidèlement. Et vous l'avez lu avec moi dans le verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Heureux. Vous connaissiez les béatitudes dans le Sermon sur la montagne. Il y a quelques béatitudes parsemées, clairsemées un petit peu dans les épîtres de Paul. Mais savez-vous que dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 béatitudes à 7 endroits différents, les heureux de l'Apocalypse. On en reparlera une autre fois. Mais il y a également la succession des 3 verbes, lire, entendre et garder. Heureux celui qui lit, celui qui entend et celui qui garde. Qui résume l'essentiel de notre attitude vis-à-vis de ce que Dieu nous dit, parce que lire est loin de suffire. Entendre, pas seulement avec nos oreilles, cela suppose que nous ayons besoin de comprendre avec l'Esprit de Dieu, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, mais encore faut-il garder, c'est-à-dire pratiquer, vivre, sans oublier, avec cet aiguillon qui nous stimule les uns et les autres si nous sommes conséquents, car le temps est proche. Donc c'est une vigilance permanente. Voilà les 3 premiers versets. On va aller plus loin. Jean, verset 4, « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. » Je le rappelle, Jean est l'auteur, il est l'écrivain et dans un sens noble, il est le voyant de Dieu. Le voyant de Dieu. Si vous voulez, on pourrait peut-être lui donner le qualificatif de prophète de Dieu. Les destinataires auxquels l'apôtre est mandaté d'écrire, ce sont 7 églises des temps de l'évangile, enfin de l'église primitive. 7 églises, encore 7. Et nous allons le découvrir très souvent, pour représenter dans son ensemble, parce que 7 évoque à la fois la perfection, bien que les églises ne soient pas parfaites, mais évoque la totalité, et là, ça donne à penser que Dieu a une vision sur l'église dans le temps et dans l'espace. Depuis la première, celle que l'on appelle l'église primitive, jusqu'à l'église du 21e siècle, à moins qu'il y ait une prolongation. Donc, c'est un chiffre de totalité, mais cela représente l'Église sauvée par Jésus-Christ au travers les siècles et dans le monde entier, dans le temps et dans l'espace, je le confirme. Et nous verrons la fois prochaine les chapitres 2 et 3 qui traitent de la question des lettres ou des messages qui sont adressés à ces Églises. Nous laissons de côté aujourd'hui. Vous remarquerez qu'il y a dès l'abord une salutation de bienveillance, grâce et paix. Donc, ce n'est pas un message terrifiant. Grâce et paix sont données aux hommes de foi, de ceux qui espèrent et qui attendent ce retour. Ce ne sont pas des paroles qui inspirent le trouble, nous l'avons dit, mais de celles qui encouragent, de celui qui est, qui était et qui vient, des sept esprits de Jésus-Christ. C'est une belle manière, pourrions-nous dire, d'introduire la bénédiction de la Trinité. Nous avons la doctrine de la Trinité. Mot qui n'existe pas et qui n'est pas écrit dans la Bible. Il y a le Père, le Saint-Esprit et le Fils. On commence par le Père, premièrement. Celui qui est, qui était et qui vient. Je vous fais remarquer au passage, il n'est pas dit celui qui est, qui était et qui sera, mais celui qui vient. C'est quelque chose qui nous marque un petit peu, quelque part, d'une manière très sensible, l'imminence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et qui était, qui vient, qui existe de toute éternité et qui nous ramène, merci, qui nous ramène, je suis celui qui suis. Dieu qui remplit le temps, le passé, le présent et l'avenir. Le deuxième dans la salutation, c'est le Saint-Esprit. Il est dit les sept esprits, chiffre 7 encore, qui évoque la perfection sous un septuple aspect, que je rappelle, parce que c'est aussi dans la Bible, esprit de vérité, esprit de force, esprit de grâce, esprit d'amour, esprit de justice, esprit de sagesse, esprit de sainteté, les sept esprits de Dieu. Et puis la troisième position, le Fils, qui est décrit par trois qualificatifs. D'abord, témoin fidèle, qui évoque et qui inspire le ministère prophétique de Christ, et c'est un ministère qui est entièrement digne de foi. Il nous est dit qu'il est le premier-né des morts, ce qui nous rappelle et évoque son œuvre rédemptrice à la croix, qui scelle ou qui a scellé par son sang notre salut éternel et dont sa résurrection est la preuve incontestable, la preuve parfaite que la mort a été vaincue, le premier-né d'entre les morts. En imaginant que cette naissance, c'est une résurrection, renaissance. Et troisième titre, il est le prince des rois de la terre. En d'autres termes, il est le plus royal auquel les plus grands feront allégeance, devront s'incliner. Tout genou fléchira devant la majesté de Jésus-Christ. Ce sont les écrits de Paul. Jésus, prophète, puisque il y a l'esprit prophétique. Jésus, sacrificateur, puisqu'il a fait le sacrifice ultime premier-né d'entre les morts, et la mort ne l'a pas retenu. Et Jésus, roi, prince des rois de la terre. Dans la dernière partie du verset 5, il nous est dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Celui qui nous aime. Nous avons ici la proclamation de la nature profonde de Dieu, à savoir son amour et les fruits de cet amour. Alors que nous étions indignes d'aucune attention, la Bible et la confirmation nous est donnée dans ce verset, Jésus nous sauve pour nous délivrer et nous a sauvés pour nous délivrer de nos péchés au prix du don de sa vie et faire de chacun d'entre nous un royaume de sacrificateurs. Je le relis. Celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés et nous a fait de nous et a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Royaume de sacrificateurs et sacrificateurs au service de sa seule gloire et de sa seule puissance. Son Père a le su à la gloire et la puissance au siècle des siècles, nous est-il fait remarquer. Qui résume tout l'Apocalypse, voici, il vient. On l'avait déjà vu, mais on va le revoir tout le long du livre. Celui qui doit remplir ou emplir nos cœurs d'espérance, ou nous remplir d'espérance, et de lui, par sa révolte, son athéisme et sa réjection. Et ça fait partie de ce que nous avons à comprendre du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et nous en voyons malheureusement les effets. Lorsque nous voyons que les gens, et particulièrement dans les pays comme les nôtres, pays occidentaux, de culture chrétienne, où il y a véritablement un athéisme considérable. Mais néanmoins, tout homme le verra. Les hommes verront les choses comme elles sont. Mais personne, néanmoins, personne ne pourra se soustraire ou se cacher, parce que ça sera à la vue de tous et partout. Et on peut le comprendre dans notre dimension de mondiovision aujourd'hui. Chose qui était incompréhensible et impossible à saisir, peut-être il y a encore un siècle ou même avant, naturellement. Et Jésus dira, au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, telle est la nature permanente, éternelle du Seigneur. Il est le commencement et il est la fin. » Je le rappelle, première révélation de Dieu au buisson ardent à Moïse, « Je suis celui qui suis. » qui a donné dans nos Bibles le mot « éternel ». Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, ça c'est la nature permanente de notre Créateur et Sauveur. Tout est contenu entre ces deux lettres de l'alphabet grec, le début et la fin. Dieu est le commencement et la fin de tout ce qui existe, et rien n'existe en dehors de lui, en lui et par lui. Celui qui est, je le rappelle, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, trois caractères de Dieu sont manifestés, trois prérogatives divines, exclusivement divines naturellement, c'est l'omniprésence, c'est l'omnipotence et c'est l'omniscience. Ce qui veut dire que Dieu est présent partout, qu'il est omnipotent, il peut tout, il est tout puissant, et qu'il est omniscient, il sait tout. Maintenant nous allons passer à une autre phase dans notre méditation, du verset 9 au verset 11, c'est la vision du Christ vivant. La venue, l'apparition du Fils de l'homme, le Christ vivant. Alors on lit. « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » Alors, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Vous remarquerez que l'apôtre Jean, le grand visionnaire de Dieu de l'Apocalypse, va se présenter avec beaucoup d'humilité. Il se présente non pas comme l'apôtre, mais il se présente comme votre frère. Parce qu'il partage avec les hommes de son temps, comme les hommes de tous les temps, les hommes chrétiens s'entend, les hommes de foi, quand il dit votre frère, il ne se met pas en supériorité, mais il se met à égalité, parce qu'il est le compagnon de souffrance des enfants de Dieu. Il se sent solidaire, parce qu'il partage la tribulation, la patience dans les épreuves, donc dans les larmes. Et ces larmes, en quelque sorte, pourraient être comparées comme un verre grossissant qui permet de déchiffrer le plan de Dieu. Vous savez, vous avez des verres grossissants. En quelque sorte, il s'identifie comme celui qui souffre. C'est un vieillard, je l'ai dit. Il est exilé à Patmos, dans une île sur la Méditerranée, ou la mer Égée particulièrement. Et c'est à ce moment-là, peut-être qu'il pense qu'il ne sert plus à rien que Dieu, à travers la tribulation, l'exil, tout ce qu'il souffre, eh bien, lui permet de voir, finalement, cette grande révélation de l'Apocalypse. Mais c'est à travers ses persécutions, c'est à travers ses larmes. Et vous savez, ça fait comme un verre grossissant, en quelque sorte. C'est pourquoi il ne s'appelle pas apôtre ou disciple de ceci ou de cela, il dit votre frère, parce qu'il est solidaire de la souffrance. Jean souffre. Je le répète, il est en exil et il est très âgé. Et il le dit, il est là à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Et puis, comme si les choses étaient apparues d'une manière, surgissaient soudainement, au verset 10, Il est dit ceci, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Je fus saisi en esprit. » Ça, c'est vraiment la marque de la révélation de Dieu auprès des hommes qu'il a choisi. Saisi en esprit, au jour du Seigneur. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et il a entendu cette voix qui parlait. Il est transporté, en quelque sorte, au temps de l'avènement du Seigneur, revenant en gloire. Il l'avait vu partir dans l'humiliation sur la croix, ensanglanté, meurtri, blessé, mis à mort. Il avait vu aussi Jésus ressuscité, mais encore avec les stigmates du martyr. Mais là, il le voit revenant en gloire. Jean va recevoir la plus belle des révélations qu'il lui faudra consigner. Il reçoit l'ordre d'écrire, le verset 11. Écris. Écris ce que tu vois dans un livre. Donc, il reçoit la consigne. Avec des destinataires précis, nommés les sept églises dont nous avons parlé et que nous verrons la fois prochaine. Nous poursuivons. Verset 12. « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la neige, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Splendeur et majesté du Christ en gloire. Jean le voit, et vous l'avez vu, et nous l'avons dit il y a un instant, il est chargé de faire maintenant la description. C'est la vision de l'Église et de son roi sauveur. Le verset 12, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. » Les mots pour décrire ce que Jean voit sont insuffisants. Paul parlera de paroles ineffables dans 2 Corinthiens chapitre 11, au moment où il a eu la vision de choses qu'il ne pouvait décrire. Et les mots sont insuffisants. La description de ce Christ en gloire peut se traduire avec les mots que nous connaissons. Mais je pense que ça allait bien au-delà de tout cela. Alors, Jean utilise ce qui est à sa portée, la compréhension humaine. Il parle... Et il dit, je vis sept chandeliers d'or. Ce sont des lampes. Ces lampes sont l'image des églises qui doivent briller au milieu dans un monde enténébré. Elles sont d'or. Nous sommes le chandelier de Dieu, là où il nous a placés. Vous savez que le chandelier avait sa signification dans le temple. Il y avait quelque chose aussi de très symbolique. Mais là, nous sommes à la réalisation de tout cela. Donc, c'est une responsabilité pour l'Église de considérer qu'elle est le chandelier. Là où Dieu l'a placé. Il nous est précisé que ces chandeliers, ces lampes sont en or parce que ils sont composés de ceux qui sont nés de nouveau. Le christianisme n'est pas une adhésion. Le christianisme est une conviction et une conversion. Une conviction qui nous amène à nous convertir et à naître de nouveau, qui ont donc reçu la nature divine. Un homme qui est né de nouveau n'est plus ce qu'il était auparavant. Il est revêtu d'une autre nature. Le Saint-Esprit vient, la parole de Dieu aussi. Jésus y occupe la place au milieu. Il est au milieu des sept chandeliers. Il y est présent dans le cœur des siens, au milieu. Et Jean commence à décrire le glorieux personnage. Ressemblance, apparence humaine, incarnation, résurrection. On peut travailler sur ces deux sens, cette signification. Parce qu'il est question d'un homme, donc c'est l'incarnation. Mais là, Jésus est ressuscité. C'est une dimension divine et céleste. Le verset 13. Pour le reprendre, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Le vêtement, il s'agit d'une longue robe et d'une ceinture d'or. Vous savez que les hommes à la croix ont voulu se partager la tunique de Jésus. Elle était cousue d'une seule partie, hein, et ils ont voulu. Mais là, il s'agit d'un vêtement qui est celui de la gloire. Avec la caractéristique et cette robe longue et ceinture d'or était dans l'Antiquité la caractéristique des hauts dignitaires. Jean avait connu son Christ venu pour servir et il lui apparaît maintenant comme le Seigneur des Seigneurs. Toutes les choses ont changé. D'ailleurs, on se rappelle que c'est quand même, me semble-t-il, Jean qui décrira ce geste d'humiliation que Jésus fera à l'encontre de ses disciples quand il lavera les pieds. Il remontera, il se ceindra d'un tablier, d'une serviette, et puis il lavera les pieds. Mais là, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Sa tête et ses cheveux, nous dit le texte, hein. L'explication des symboles, le blanc exprime la pureté, la sainteté, c'est-à-dire l'éblouissement de Jésus-Christ à travers sa tête et ses cheveux. Ses yeux comme, c'est l'image, et cela image le regard du Seigneur qui pénètre partout et à qui rien ne peut être caché. Il nous est parlé au verset 15 de ses pieds. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. L'airain symbolise la justice divine. Jésus vient appuyer sur la justice pour accomplir parfaitement l'ardeur des jugements de Dieu. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse est certes le livre de l'espérance, mais nous le découvrirons dans le cours du temps. Nous verrons que Dieu vient remettre les choses en ordre à travers des jugements. Après avoir exercé sa longanimité, c'est-à-dire un long temps de support du mal et de l'injustice, ne condamnant pas les hommes, mais les invitant à saisir la grâce pour qu'ils échappent au jugement. Donc, ça c'est l'image de l'airain, de ses pieds qui sont en airain. L'Apocalypse n'est plus le livre de grâce, à moins qu'il y ait ressaisissement au dernier moment. On s'approche de la fin. Les hommes ont encore l'opportunité, mais vous savez, on le verra, on le décrira, que dans les moment où il y aura ces jugements qui vont s'abattre. Je ne sais plus si c'est à l'ouverture des sceaux ou des sept trompettes, mais il nous est dit que les hommes se cacheront dans les rochers, se cacheront de toute manière pour dire, eh bien, nous ne voulons pas voir la face de celui qui vient, et il nous est dit que les hommes ne se repentiront pas. Donc, ils refuseront la grâce. La grâce sera encore présente, mais ils la refuseront. Mais à ce moment-là, ce sera le temps des jugements du ciel pour les incrédules. Pour les incrédules, il nous est parlé de sa voix qui évoque la majesté du Seigneur quand elle retentira lors de son avènement. Le verset 16 nous parle de sa main. Verset 16, où il est question, il avait dans sa main droite sept étoiles. Sa main apparaît pour rassurer et non pour faire peur. C'est une main qui reste toujours une main qui est prête à bénir les hommes. Et on le voit puisque tout l'évangile nous parle des mains de Jésus. Certes les mains percées, mais les mains qui guérissent, les mains qui ouvrent les yeux des aveugles, les mains qui, eh bien là, imposent sur les corps malades pour les délivrer. Voilà. Donc, il tient les sept étoiles de sa bouche, et on y reviendra pour les sept étoiles d'ici un instant dans la conclusion. De sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants, et son visage est comme le soleil qui brille dans sa force. Son visage est semblable à l'éclat du soleil, parce que le soleil est insoutenable au regard. Lorsque le soleil est à son zénith, personne ne peut résister, pas quelques secondes, mais on ne peut pas fixer le soleil. Et on peut dire qu'il en sera infiniment davantage devant l'apparition de celui qui vient. Tout cela n'a rien de menaçant pour les enfants de Dieu. Je dis bien que tout cela n'a rien de menaçant pour chacun d'entre nous. Il vient pour la délivrance finale. Et dans le verset 7, 17 à fin, c'est la conclusion. Dans ces versets que je lis, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. » Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers, ce sont les sept églises. La première chose qui est dite à ce moment-là, dans la conclusion de ce premier chapitre de l'introduction, c'est « ne crains pas ». C'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans l'introduction de ce livre, parce que nous en connaissons le caractère, c'est que Dieu nous dit, bien, tu ne crains pas. Je suis vivant, Jésus affirme, je suis le vivant. Je suis le vivant, et vivre, c'est aimer. Ouais. Le véritable sens que nous pouvons donner à l'amour, c'est aimer. C'est communiquer la vie parce que la mort a perdu son pouvoir sur le Christ. Et c'est lui maintenant qui a le pouvoir sur la mort. Et ce pouvoir de vie, c'est Christ qui nous le donne si nous voulons l'accepter. Ça change tout, tout a été renversé. La mort a régné depuis Adam, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens. Mais à partir de la croix, à partir de Golgotha, à partir de toute l'histoire de l'Église qui a proclamé la victoire de Jésus, alors maintenant la mort est sous ses pieds. Et tous ceux qui, par crainte de la mort, veulent venir placer leur confiance, leur espérance en Jésus, eh bien, ils sont vainqueurs de cette épouvantable fatalité, de cette, nous pourrions dire, cette épouvante pour les hommes. C'est maintenant Jésus qui a le pouvoir sur elle. Et il en détient les clés. Les clés, il y a sa parole, il y a son esprit qui nous donne de comprendre sa parole. Il y a la foi qui s'attache à l'acceptation de sa parole. Et Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis la porte » Eh oui, c'est par lui que nous entrons. Il détient les clés de la mort. Il ouvre les portes de la vie. On ne parle plus de la mort, il ouvre les portes de la vie. Au verset 19, il est dit à Jean « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va arriver ensuite. » Et ce qui va arriver ensuite, c'est 21 chapitres, mes amis. Il y a encore matière à réflexion, hein. Jean reçoit l'ordre d'écrire sur trois sujets différents. Écoutez bien, les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver. Trois, je rappelle, celles que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver. En quelque sorte, je vais dire en deux mots, tout le plan, le dévoilement du livre de l'Apocalypse. C'est un plan prophétique. Le chapitre 1er, plus le chapitre 2 et 3, et tout le reste. Je reviens. Chapitre 1er, c'est la vision du Seigneur en gloire. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce que tu as vu. Celles qui sont, c'est le chapitre 2 et 3. C'est les temps de la grâce manifestés par ces lettres adressées aux sept églises, dans l'état moral et spirituel dans lequel elles se trouvent. Les réalités de ce qu'elles sont, de ce qu'est l'Église encore aujourd'hui, parce que nous faisons partie de ces sept églises de l'Apocalypse, on pourrait dire. Et du chapitre 4 au chapitre 22, c'est les temps des jugements divins avec les bénédictions qui s'ensuivent pour ceux qui croient. Jugement pour ceux qui restent incrédules et qui restent complètement opiniâtres, fermés, qui refusent encore eh bien, la miséricorde de Dieu qui appelle ultimement. Mais il y aura ces jugements qui vont venir sur le monde, mais il y a aussi, une fois que les choses seront faites, les bénédictions qui vont arriver. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse reste éminemment un livre d'espérance. Avant tout. Verset 20. le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Étoiles et chandeliers, je vais finir. Encore deux symboles forts, appelés anges des hommes chargés de conduire son église, et les comparer à des étoiles et les églises à des chandeliers d'or, c'est une distinction. C'est une grande distinction que Dieu nous fait en tant qu'église et que Dieu fait aussi à ses serviteurs, aux conducteurs spirituels, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient prophètes, apôtres et tout ce que vous voudrez. Appelez ange. Alors, ne vous me prenez pas, je ne suis pas un ange. Et pourtant, voilà le terme dont le Seigneur, l'Esprit de Jésus, qualifie et gratifie en honneur, en distinction, l'Église qu'il a sauvée, et puis ceux qui servent, finalement, et bien ceux qui font partie de l'Église. Le chandelier répand sa lumière au milieu des ténèbres. C'est l'image de l'Église appelée à briller, tout comme les étoiles éclairent dans la nuit. Oui. Et plus la nuit sera sombre dans les derniers temps, plus les étoiles vont briller. C'est logique. Alors ne nous décourageons pas, nous avons encore beaucoup de travail. Nous avons encore à relever la tête. Et plus le monde va s'enténébrer, va s'obscurcir, plus il y aura d'obscurantisme autour de nous, et bien plus l'Évangile, plus l'Église doit briller, et plus chacun d'entre nous en tant que témoin de Jésus-Christ, plus haut nous devons porter les lampes. Certainement. Et il nous est dit que ces étoiles sont, et ces chandeliers sont dans la main droite du vivant. Ce n'est pas pour rien, la main droite du vivant. Et cela nous inspire la confiance absolue et la force. Et l'appellation évangélique dédiée aux serviteurs de Dieu. Dieu est là pour leur rappeler qu'ils doivent être obéissants, qu'ils doivent être dévoués et dépendants de leur maître. Nous sommes dans la main droite de notre Dieu. Les anges que sont les serviteurs, les églises qui sont tenues dans la main droite, eh bien, cela nous rappelle l'obéissance, le dévouement et la dépendance de notre maître. Il n'y en a qu'un qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un qui soit sauveur, c'est Jésus. Il n'y en a qu'un qui soit seigneur, qui soit roi, qui soit sacrificateur, c'est Jésus. Et je finis. La suite du livre de l'Apocalypse va nous faire entrer dans les réalités des tribulations qui vont fondre sur le monde d'une part, mais aussi sur celle qui devra endurer aussi les mêmes tribulations, c'est-à-dire l'Église de Jésus. Alors le peuple de la foi doit savoir avec certitude qu'il est et sera à l'abri, qu'il sera tenu et qu'il sera protégé dans la main droite de son Sauveur. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire la main la plus forte, celle avec laquelle on honore quelqu'un. Quand on serre la main, on serre avec la droite. À moins qu'on soit, mais en principe c'est comme ça. Oui, la main droite. C'est une position pour nous, et cela nous est rappelé dans cette introduction simplement, c'est une position de sécurité, de sûreté et d'honneur. Et c'est une vision de réconfort et de gloire. Et je tirerai simplement une dernière conclusion hors de l'Apocalypse. C'est dans 2 Corinthiens. Nous allons simplement tirer la conclusion de cela. 2 Corinthiens, verset 4, chapitre 4, pardon, et verset 16 à 18. Alors je pense que nous pouvons partir avec tous ces mots qui ont été dits ce soir, d'un enseignement méthodique que nous sommes en train de faire. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous voulons partir dans une compréhension. Parce que tout ce qui est consigné dans le chapitre premier, ça va être véritablement développé par la suite. Mais une chose que nous avons besoin de savoir et de repartir encouragé ce soir, écoutez bien ce que dit Paul. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Que Dieu nous bénisse dans cette première porte que nous avons poussée, fenêtre si vous aimez mieux, et nous avons encore tant de choses à découvrir, et le Seigneur va nous conduire et nous inspirer. Je voudrais simplement terminer par la prière en remerciant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que, en effet, nous voulons véritablement être de ceux qui levons nos têtes vers le ciel. Et nous ne voulons pas, Père éternel, nous apitoyer, nous ne voulons pas nous lamenter, Seigneur, nous ne sommes pas sans espérance. Nous pouvons dire que, comme tu le dis prophétiquement dans les évangiles, je vous ai tout annoncé d'avance. Alors c'est à nous de le croire, c'est à nous de le garder dans notre cœur. Oui, Seigneur, nous avons à lire, nous avons à entendre, mais celui qui lit, celui qui entend, doit garder. Alors aide-nous, Seigneur, à garder. Fais que ton Église garde tes paroles. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions nous comporter dans ce monde, eh bien, comme des étoiles. Oui, Seigneur, qui brille dans la nuit la plus obscure. Donne-nous de nous comporter, Seigneur, avec courage. Donne-nous, Seigneur, de nous comporter avec beaucoup d'amour pour ceux, Seigneur, qui sont autour de nous et qui se perdent, et qui peut-être jusqu'à maintenant refusent l'appel de leur Sauveur et de leur Seigneur. Seigneur, c'est pour cela que nous voulons encore être à l'œuvre, pour, eh bien, Seigneur, dire que tu viens bientôt, et qu'il est temps, Seigneur, véritablement, eh bien, d'ouvrir son cœur, son âme, sa vie à Jésus. Merci, Seigneur. Raccompagne-nous, Seigneur, s'il te plaît, parce que nous avons compris que, eh bien, ce n'est pas le temps de perdre courage, mais c'est le temps, Seigneur, d'espérer à ton retour, d'espérer un nouveau monde, d'espérer ton royaume, d'espérer que tu changes, parce que tu as prévu de tout changer, mais tu commences par les cœurs et les vies de ces hommes d'ici-bas. Merci notre Dieu, merci Jésus. Amen. Amen.